ravi de vous accueillir tous pour parler de créatures, de ces créatures en tout genre, avec ici une réunion d'auteurs que je trouve particulièrement impressionnante. Avec, alors commençons par là-bas, donc nous avons Vincent Villemino. Alors c'est un peu mélangé hein, au niveau des lignes, mais donc Vincent Villemino qui a écrit une trilogie qui s'appelle Instinct 1, 2 et 3, qui est paru chez Nathan. Et donc, bon, on va en parler après, mais lui, ces créatures, manifestement, qu'il aime bien, ce sont les loups-garous. À côté de lui, nous avons Arthur Ténor, qui vient de sortir donc, un volume qui s'intitule Les Fabuleux, qui est en quelque sorte, qui est l'après-quel, c'est pas en quelque sorte, c'est l'après-quel de la tétralogie qu'il avait écrite de Voyages extraordinaires, donc dans des mondes, il nous avait emmené explorer des mondes de l'imaginaire, et là c'est comment a-t-on pu y arriver la première fois. Donc nous allons en parler. Ensuite, Gaël Carrier, qui a écrit Le Protectorat de l'Ombrelle, 4 volumes déjà parus en France chez Orbit, donc les aventures et les mésaventures d'Alexandra Taragotti, Lady Macon, dont elle va nous parler, dans un monde qui lui aussi est tout à fait extraordinaire. À côté d'elle, Cassandra O'Donnell, qui depuis maintenant combien, 2 ans à peu près, nous fait partager les aventures de Rebecca Keane, sorcière de guerre dans le Vermont, 4 volumes de parus à l'heure actuelle chez Gelli, le dernier s'appelant Ancestral. Et enfin, à côté de moi, Jean-Luc Barcastel, qui alors lui aussi nous a donné un grand nombre de séries absolument extraordinaires. D'une part, les aventures, vous connaissez sans doute tous pour les aventures de Louis Le Gallou, 4 volumes, hein, si je me souviens bien, 5 volumes. J'avais noté 5 et j'ai corrigé en 4. Bon, donc ça va pas du tout. Voilà, donc 5 volumes des aventures de Louis Le Gallou, et aussi un petit peu oublié, éclipsé par Louis Le Gallou, les 3 volumes de l'univers de Franquia. Donc, des univers qui sont tous fort différents, fort extraordinaires et remplis, comme le dit le titre de cette table ronde, de créatures en tout genre. Et nous allons peut-être commencer par vous familiariser un petit peu par ces univers excessivement riches et leur description des créatures qu'ils contiennent. Alors peut-être honneur aux dames d'abord. Donc Gaël, Cassandra, qui veut commencer? Ok, Gaël.
So I use essentially only 3 creatures in my world of the Paranormal Accurate books: vampires, werewolves, and ghosts. And that's because to formulate the world, I wanted to tap into the Victorian mentality, and the Gothic literature of the time was very focused on mostly those supernatural creatures. They had scientifically created creatures as well, but it was mostly those 3 in the literature of the time. So, in England at the time, those were the creatures.
Alors en fait, moi je me sers principalement de 3 types de créatures: les vampires, les loups-garous et les fantômes. Étant donné que mon monde est un monde un peu basé sur l'époque victorienne, je me suis inspirée justement de la littérature de l'époque qui parlait principalement de ces créatures-là. En tout cas, c'est celle qui existait en Angleterre dans la littérature à l'époque.
Et Gaël, vous avez aussi quand même, on peut parler de votre personnage principal, Alexandra Taragotti, qui vient du même. Est une créature quelque part en elle-même.
That is part of the question of her as a character, is whether she belongs with the supernatural or whether she belongs with humans. And they decide, I think, that she is more human because she is mortal, she can die. And so for that, she is classified as a human for the scientific mind of the Victorian. But yes, she does have strange abilities. Her only ability, though, is to cancel out the supernatural. So she has no strength of her own. She can only cut off others.
Alors, en fait, effectivement, c'est une des questions concernant le personnage d'Alexia Tarabotti, c'est savoir si c'est un être surnaturel ou si elle est humaine. Alors, on aurait tendance à dire qu'elle est plutôt humaine, principalement parce qu'elle est mortelle. Et c'est du coup, les scientifiques auraient tendance à la classifier comme humaine. Mais elle possède malgré tout une capacité à... c'est celle de pouvoir annuler les capacités des autres. C'est-à-dire que si elle touche un vampire ou un loup-garou, ils ne le sont plus, ils redeviennent des mortels le temps qu'elle les touche. Mais c'est sa seule capacité, c'est d'annuler celle des autres.
Plus aussi, elle peut s'aventurer. Alors, est-ce qu'ils sont des créatures aussi quelque part?
I think I would make a distinction between who is the creature or who is the monster. And for me, the monster is anyone, whether they are human or not, who gets too obsessed with something. So the real monsters of the first book are scientists who are too obsessed with killing to protect their nationality. And the monsters in a future book are religious fanatics, and so on and so forth. So for me, what is frightening and what is monstrous, I don't know if you make that distinction, is the human capacity to go to extremes.
Alors en fait, je pense qu'il y a une différence entre créature et monstre. Pour moi, un monstre, c'est quelqu'un, qu'il soit humain ou pas, qui a une obsession et qui va dans des extrêmes. Par exemple, dans le premier roman, les monstres, pour moi, ce sont des scientifiques qui sont prêts à tuer pour protéger leur pays. Dans les romans suivants, il y a aussi des fanatiques religieux. Et pour moi, les monstres, ce sont vraiment des humains qui vont trop loin, en fait.
Cassandra, quant à vous, alors c'est un vermin qui est tout à fait étonnant.
En fait, dans Rebecca King, il y a beaucoup, il y a six principaux clans de créatures surnaturelles. Vous avez les chamanes, les potionneuses, les muteurs, les loups-garous, les vampires. Donc si vous voulez, c'est assez varié. Les créatures s'affrontaient il y a encore peu de temps, dans une guerre fratricide. Et pour le coup, on est dans une période d'après-guerre, donc ils essayent de vivre ensemble, et les rancunes ne se sont pas terminées. Mais ce qui était intéressant, c'est de travailler à chaque tome sur un clan différent. Donc j'ai voulu faire une enquête, qu'on approfondisse d'abord et qu'on découvre les différents clans, pour pouvoir après partir dans une épopée un peu plus importante. Mais c'est une manière de découvrir les différents clans par ces enquêtes dans chaque clan, et on découvre donc quelles sont les forces des potionneuses, des vampires, des démons, etc. Et pour le coup, ça nous donne l'occasion de découvrir et d'approfondir vraiment différents personnages, et d'avoir le temps aussi de s'attacher à eux, de les connaître, etc.
Et c'est vrai que en plus, vous décrivez à l'intérieur de chaque espèce, ces créatures, il y a ensuite une sorte de sous-espèces. Je ne résiste pas au plaisir de citer l'un des personnages secondaires, mais qui est un des favoris, je crois, que j'ai jamais autant vu que lorsque j'ai lu sa description. Il y a un médecin légiste qui est un ragondin garou. C'est extraordinaire.
Pardon, c'est des petits clins d'œil amusants, mais parce que j'ai un sens de l'humour. Mais dans Rebecca, l'humour est très très important. Donc pour le coup, les créatures, effectivement, j'ai bien trouvé décrire, puisqu'évidemment ce sont des métamorphes, des créatures un peu surprenantes. Ce qui fait qu'effectivement, le médecin légiste est un peu particulier, et il n'y a pas que lui. Mais c'est ce qui donne aussi cette petite touche d'humour, c'est-à-dire comme c'est assez violent, pour le coup, pour atténuer toute cette violence, etc. J'ai glissé pas mal d'humour, dont des personnages assez drôles, voilà. Dont un majordome anglais, typiquement, voilà. On retrouve dans des vieux livres anglais ou dans des séries télévisées. Voilà, c'était amusant de faire ce genre de petit clin d'œil.
Par contre, chez vous, Vincent Dumino, là, on a affaire qu'il y a une seule espèce dans Instinct qui sont des loups-garous.
Dans Instinct, c'est pas vraiment des loups-garous, ce sont des gens qui se transforment en animaux. Quand ils sont des animaux, rien ne les distingue de l'animal classique. Quand ils sont humains, rien ne les distingue de l'animal classique. Simplement, ils vivent des métamorphoses sans toujours pouvoir les prévoir, selon des cycles lunaires ou sanguins. Voilà. Et en fait, je suis parti de récits beaucoup plus anciens que ceux qui concernent les loups-garous, qui sont des récits de la mythologie antique et qu'on trouve un peu dans toutes les civilisations, où certaines fois les hommes deviennent des animaux et vice-versa. Donc on a toute une galerie d'animaux, hein, le héros devient, ou au moins a le souvenir d'avoir été un ours à un moment dans sa vie. D'autres peuvent devenir d'autres espèces, parfois peu reluisantes. Et il y a, simplement un enjeu, c'est à arriver à garder, lorsqu'on est un animal, une relative maîtrise de ses instincts pour éviter que cette métamorphose puisse nuire à autrui. Voilà, c'est l'histoire de trois jeunes gens qui se retrouvent dans un institut pour apprendre d'une part à éviter que les métamorphoses surviennent quand ils ne l'ont pas prévu, d'autre part pour apprendre aussi lorsqu'ils sont métamorphosés, d'une part à ne pas faire souffrir autrui et d'autre part à ne pas se retrouver dans une situation périlleuse. Il y en a un qui se transforme en homard. Donc le risque principal quand l'animal marin est qu'on vit dans un type de montagnard, c'est l'asphyxie, et l'autre risque c'est la gastronomie. Donc voilà.
Et puis en même temps dans Instinct, il y a là aussi il y a quand même quelques savants un peu particuliers qui essayent d'étudier cela. Il y a un aspect légèrement science-fictionnel, dirais-je.
Oui, il y a un aspect scientifique. En fait, moi, j'ai voulu traiter cette histoire vraiment comme un thriller, pas du tout comme un roman gothique. Donc, si on accepte l'idée que des hommes se transforment en animaux, c'est évidemment intéressant en termes de mutation d'ADN. Ça met en jeu des choses qu'on ne connaît pas bien aujourd'hui et qui peuvent être tout à fait intéressantes pour des labos pharmaceutiques. Donc il est logique que au moins pendant la période animale, certains des héros se retrouvent comme des rats de laboratoire. Et si la métamorphose ne dure pas très longtemps, ben, on va avoir aussi des humains de laboratoire. Et c'est ce que raconte l'un des tomes d'Instinct. C'est tout ce passage des héros sous les scanners, les IRM, etc. des scientifiques pour arriver à exploiter le don ou le handicap dont ils souffrent.
Alors, avant de passer la parole à Arthur Kenor, je vais d'abord prendre, je vais poser d'abord la question à Jean-Luc Parcastel, parce que là, nous avons quatre auteurs qui ont chacun ancré leur monde dans ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, notre propre monde, alors que chez Arthur Kenor, on passe tout à fait ailleurs ensuite. Donc Jean-Luc Parcastel, alors vous, d'abord, vous êtes ancré en Auvergne, vos créatures.
Alors, en ce qui concerne le galop, oui, en Auvergne, dans le sud de la France, puisque le principe de base de cette série, que ce soit galop ou alban, était de mettre en scène, on va dire à la manière un petit peu de ce que le fait avec son corps anglo-saxon nordique, une espèce de fantaisie médiévale qui, elle, s'inspirait des contes et des légendes de France. Donc je me suis interdit un peu tout ce qui était créature, elfe, nain, etc. Et donc j'ai été recherché, moi, dans notre folklore du sud de la France, voir des créatures. Bon, le galou, moi je suis originaire d'une région, effectivement, on avait du Gévaudan qui n'est pas loin. Et les loups, je crois que le dernier loup, c'était vers 1901, qui a été tué vers chez moi quand même. Mais pas bien maintenant. Donc les histoires de loup-garou, de galou, des procès en lycanthropie, on a eu pas mal. Donc ça c'était une évidence, moi c'était le thème qui m'intéressait. Le thème de cette bête intérieure qui sort en nous. Moi, par contre, ils peuvent se transformer quand ils veulent. C'est à volonté. Ils peuvent faire jaillir, ils font jaillir leur bête intérieure, en quelque sorte, à eux, après, de voir comment, la façon dont ils vont la gérer. Cette créature sort de manière sauvage, et après, suivant qu'ils vont dévorer de la chair humaine, ils vont franchir une limite. Et dans ce cas-là, ils vont être perpétuellement dévorés par une espèce de faim, de rage perpétuelle. Ils vont être comme des animaux en cage tout le temps dans leur corps, et le besoin de chasser sera toujours omniprésent. Et donc parmi ces personnages de galou en quelque sorte déchus, j'ai été récupérer une légende. Cette légende, ça s'appelle celle du grand veneur, qui était très répandue vers chez moi dans les solitudes des hauts plateaux d'Auvergne, où on disait que la nuit, par exemple, une chasse fantôme se déplaçait dans le ciel en faisant aucun bruit, avec un seigneur qui guidait derrière les pieds et qui enlevait les jambes dans un silence effroyable et qu'on ne retrouvait jamais. un exemple parmi tant d'autres. Ou par exemple, dans le second album qui va sortir malheureusement le mois prochain, il est question des draques qui sont des espèces d'enfants infernaux. Et dans ma région, alors c'est marrant, le drac ne désigne pas du tout le dragon, ça désigne une espèce de farfadé, de lutin. On dit que c'est le fils du diable, qui était tellement insupportable que le diable l'a mis dehors de l'enfer. Et qui par contre, depuis, fait plein de tours aux humains. Il n'est pas forcément, il ne va pas tuer les gens, il va leur faire plein de tours pendables. Dès qu'il y a quelque chose qui est arrivé, on dit voilà, c'est la faute du drac. Et pour s'en protéger, il n'existait qu'un moyen. C'était de mettre devant sa porte ou sa fenêtre une écuelle pleine de grains. Le drac ne pouvant s'empêcher pendant la nuit, ou de sortir que la nuit, de compter les grains. De compter les grains toute la nuit, et puis au matin, il était trop tard, et il s'en allait, il avait fait le temps de faire un mauvais coup. Voilà. Donc, j'ai ancré ceci dans le folklore du sud de la France.
En revanche, dans Franquia, on est dans une France parallèle de la Deuxième Guerre mondiale, tout à fait différente aussi.
Oui, alors là, c'est plutôt une espèce de fraude mécaniste, une espèce de magie pervertie, utilisée comme une science dans laquelle. Par exemple, un des méchants de Francia est une espèce d'émanation biomécanique du mal. Il n'a pas de visage, il a une espèce de complexe abstrait à la place du visage de plaque métal qui bouge tout le temps. Car le mal n'a pas de visage, il est le reflet des peurs exactes de celui qui le regarde. Donc en fait, ça fait un peu une espèce de tableau de Picasso, vous voyez, de Demoiselle d'Avignon complètement fou, qui vous renverrait vos propres peurs dès que vous le regardez, en le composant avec des plaques de métal qui se rajustent sans arrêt en fait. Par exemple, une valkyrie au corps d'insectes de métal, enfin bon, voilà, c'est assez bizarre.
Et alors, chez Arthur Ténor, par contre, effectivement, on parle là aussi de France, de la région d'Orléans, hein, où Julius Colvaque, je ne sais pas Julius Colvaque, donc, qui est un savant, Colvaque, c'est moins joli. Donc Julius Colvaque est un savant comme on les aime, complètement déjanté, etc. Suite à une expérience, donc dans les fabuleux, il découvre le moyen de pénétrer dans un univers qui alors là est à la fois tout à fait une autre et fondamentalement différent.
Ouais, il cherche à comprendre le mystère du vide, puisque le vide n'est pas rien, qu'est-ce que c'est ? Et en allant chercher grâce à l'hyperaccélérateur de particules, avec la physique quantique, il va chercher dans l'infiniment petit. Vous savez, plus vous descendez dans l'infiniment petit, plus vous quittez le monde de la matière pour entrer peut-être et approcher le monde de l'esprit. Il y a un moment donné où il y a une frontière entre la matière et l'esprit. Et j'ai imaginé qu'il atteint cette frontière. Et une fois que vous franchissez la frontière, vous vous retrouvez où ? Dans l'esprit forcément humain, et c'est-à-dire forcément dans l'imaginaire. Donc le concept, c'est on peut finalement visiter les univers imaginaires, les infiniments de l'imaginaire, comme on irait dans des dimensions parallèles. Et c'est ce qui fait que là, on peut... Alors, si on va dans l'imaginaire, on pourrait en croiser des créatures fabuleuses. Alors moi, ce que j'ai imaginé, c'est que le premier monde qu'on découvre grâce à une expérience entre guillemets ratée, c'est une brèche qui va dans un univers où on va retrouver des créatures telles que nos auteurs du passé et du présent les ont imaginées, par exemple Tolkien et bien d'autres.
Oui, j'ai adoré lorsque Julius Colvaque, à un moment, s'exclame en recevant une visite. Il y a cette orque qui passe à travers. Et à travers la brèche, le trou qui n'a pas d'envers, et il s'exclame « Ah ! Un orque de Sauron dans mon bureau
!» Ben oui, parce que c'est aussi ce qui est intéressant. Bon, l'esprit humain ou l'être humain peut aller du réel vers l'imaginaire, et la question qui se pose, est-ce que l'imaginaire peut entrer dans le réel et influencer le réel comme nous, on pourrait influencer l'imaginaire ? Donc faudrait découvrir un petit peu plus avant le livre, mais en tout cas pour celui qui a provoqué cette brèche dans le réel, quand il voit arriver un orque, effectivement il peut penser qu'à ce qu'il connaît, c'est-à-dire un orque de Sauron.
Mais ensuite, donc là dans les fabuleux, on découvre, comme vous l'avez dit, les sept royaumes, mais ensuite dans les quatre volumes qui étaient sortis avant, parce que ça c'est une préquelle, on explore d'autres royaumes.
Oui, il y a quatre tomes totalement indépendants, où à chaque fois, alors là on est 50 ans plus tard après les fabuleux, où effectivement, par exemple, on expédie un commando, on va dire, sur les terres du comte Dracula, c'est-à-dire qu'en fait, on va explorer l'univers de Bram Stoker, Et là, par contre, où je vais y mettre ma patte personnelle, c'est que, par exemple, en allant dans cet univers imaginaire, donc on va retrouver Dracula, j'imagine aller plutôt dans la genèse du comte Dracula, tel qu'on le connaît, le vampire, c'est-à-dire à un moment qui n'a pas été traité, d'après ce que je crois savoir dans la littérature, jamais, c'est quand est-ce que le comte Vlad Tepes, comte de Valachie, Vlad l'Empaleur, mortel, seigneur roumain mortel, quand est-ce qu'il est devenu Dracula l'immortel? Quand est-ce que... voilà. Et donc, on le voit un peu dans le film de Coppola, mais j'ai carrément imaginé ce passage du mortel vers l'immortel, et quand Dracula est tout jeune et qu'il n'a encore jamais mordu, avant de devenir le Dracula qu'on connaît.
Alors, il y a une autre question aussi que je me suis posée en lisant vos livres, et donc en découvrant chacun de vos univers. Qu'est-ce qui chez vous, alors là on reste toujours dans la question de l'imaginaire quelque part, mais qu'est-ce qui chez vous fait que vous avez choisi de décrire plutôt ces mondes-là qu'autre chose? On est ici dans un festival de fantaisie, vous auriez pu après tout tous écrire des mondes avec des chevaliers, des dragons, ce que j'appellerais entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, de la fantaisie classique, et au contraire, vous avez laissé libre cours à une imagination complètement différente. Pourquoi avez-vous choisi de décrire ce genre de monde?
Moi, en ce qui me concerne, je trouve des fois parfois plus intéressant de faire rentrer du fantastique dans le monde réel, finalement de mêler les deux, ou presque à la limite, le lecteur se dirait « tiens, pourquoi pas ?» plutôt que de déplacer ça dans un univers totalement imaginaire. J'aime bien le fait justement de déformer la réalité. Dans le Galou, par exemple, le postulat de base était qu'il y a un cataclysme en l'envie qui ouvre une espèce de brèche, quelque chose qui vient du ciel. Et quelque chose tombe qui va émettre une phosphorescence bleutée qui va changer les créatures qui vont s'en approcher. Donc à la limite, les gens ne savent pas. Je ne dis jamais s'il s'agit d'une météorite, s'il s'agit libre aux gens de l'imaginer ou pas, d'y voir de la magie, d'y voir est-ce que c'est peut-être des radiations, on ne sait pas. Et donc, il y a un doute. Et après tout, est-ce que ça aurait pu exister? Est-ce que ça aurait pu... Ça donne une explication cohérente aux toutes les créatures. Ça me permet de lier toutes les créatures avec des gens disparates qui existaient. Et j'aime bien ça. Et dans Francia, pareil, déplacer le réel, mettre du réel, l'imaginaire avec l'imaginaire. Je ne sais pas. Je trouve ça assez intéressant comme démarche intellectuelle, enfin pour moi. Après, je n'ai pas mes collègues qui sont à côté.
Moi, la raison, on a le droit de répondre par fainéantise parce que c'est difficile de recréer un monde. Non, dans la vérité.
Ça, c'est trop facile.
Oui, bon, d'accord. Alors, non, la vérité c'était que j'avais envie, effectivement, de rester dans un monde réel, les villes d'aujourd'hui, etc. Et que je trouvais amusant de dire tiens, je vais créer des personnages qui vont côtoyer les humains sans que ceux-ci s'aperçoivent de quoi que ce soit. Et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Imaginer, même pour nous, quand on imagine qu'on peut transformer notre propre réel, c'est beaucoup plus facile. On va pas se dire, on est dans un autre univers. On va se dire, si on a envie de rêver, on va se projeter, nous, dans notre propre univers. Et j'avais envie de faire rêver les gens et de se dire, tiens, c'est vrai, après tout, pourquoi pas, ça pourrait, éventuellement, il pourrait y avoir telle ou telle ou telle créature. Et puis, je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup, beaucoup de livres de fantasy. Ça se faisait beaucoup. Et en France, on avait peu d'urban fantasy. Qu'on appelait l'urban fantasy, et que ça manquait. Et je me suis dit, il n'y a pas d'auteur français du tout en fantasy urbaine tel que la font les anglo-saxons. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de tenter l'expérience. Voilà, tout simplement.
Mais alors, vous qui êtes française, pourquoi avoir choisi Vermont au lieu de prendre comme Jean-Luc Marcastel l'Auvergne?
Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il ne faut pas plaisanter, ce sont les anglo-saxons qui ont inventé la fantasy urbaine, pas nous. Donc, en même temps, ça me semblait logique. D'autant que les lecteurs français étaient habitués à ce que ça se passe aux États-Unis ou en Angleterre, enfin ailleurs. Et pour le coup, déjà qu'on héroïne était française, je ne voulais pas en rajouter. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était tout à fait normal que ça se passe. Voilà, c'était une sorte d'hommage, entre guillemets, aux créateurs du genre. Voilà.
So I have a very simple answer, which is. This is the book that I wanted to read. so I like urban fantasy, But I don't like a contemporary setting very much. I love history, so I wanted to read urban fantasy in the past. And then I wanted steampunk, but most of the steampunk I read is very technical and very serious. So I wanted something very light, and I wanted a strong female main character, and I wanted to laugh. And so I waited, and nobody wrote the book. So I had to write it. And then I had to write four more.
Oui, alors en fait, ma réponse est très simple, c'est tout simplement le livre que je voulais lire. Personnellement, j'adore l'urban fantasy, mais j'aime pas trop que ça se passe en fait dans l'époque actuelle. Je préfère tout ce qui est historique. Donc pour moi, il fallait de l'urban fantasy, mais qui se passe dans le passé. J'adorais aussi le steampunk, mais alors le steampunk, en général, c'est hyper technique, c'est très sérieux. Moi, je voulais lire quelque chose de léger, avec un personnage principal qui serait une femme forte, et je voulais lire. J'ai attendu, et personne n'a écrit le roman. Donc bah, j'ai été forcée de le faire du coup, et puis bon après j'en ai écrit quatre autres.
Et c'est vrai que c'est très réussi, d'autant plus que vous jouez sur les codes victoriens avec en même temps l'influence de personnages qui ont une durée de vie extrêmement longue, donc qui se sont révélés à la Renaissance, puisque à l'âge des Lumières, les vampires et les loups-garous ont décidé que maintenant que l'humanité était enfin devenue plus sage quelque part et plus évoluée, on y pouvait se révéler sans crainte. Et dans votre monde, c'est bien ce qui se passe.
Yeah. So for me, Henry VIII leads into the Enlightenment, and slowly, the supernatural becomes public knowledge. And also for me, it was a means of explaining inexplainable parts of history. So it has always troubled me that England got an empire, because they're a very small island with not a much going for them, really. And so I decided that this was because England had vampires and werewolves fighting for them, and the rest of Europe, under the influence of the Catholic Church, rejected them. And so England made use of the supernatural. They're crafty like that. Otherwise, it makes perfect sense to me. Otherwise, you can't explain the British Empire at all.
Alors effectivement, pour moi, Henri VIII a mené à l'époque des Lumières, et ça a mené effectivement à cette connaissance des vampires et des loups-garous. Et puis pour moi, c'était aussi une façon d'expliquer des choses de l'histoire que je ne comprenais absolument pas. Ça m'a toujours perturbée de savoir pourquoi, enfin, comment l'Angleterre avait pu avoir un empire, vu que c'est quand même une petite île de rien du tout, et que bah, ils n'ont pas grand-chose pour eux, faut bien le dire. Alors je me suis imaginé que justement l'Angleterre s'était servi des vampires et des loups-garous qui avaient combattu pour eux. Pendant ce temps-là, le reste de l'Europe était sous l'influence du catholicisme, et du coup rejetait les vampires et les loups-garous. Et en fait, l'Angleterre s'est donc simplement servi des êtres surnaturels pour conquérir le monde. Et bah oui, ils sont doués comme ça. Parce que sinon, franchement, je vois pas bien comment l'Empire aurait été créé.
Vincent Vigneau, Arthur Pénard.
En deux secondes,
En même trois.
Oui, à titre personnel, j'ai une démarche complètement assez différente. Je me définis assez volontiers, plutôt que comme écrivain, que comme explorateur de l'imaginaire. Alors un explorateur de l'imaginaire, il va à la rencontre, il va visiter l'imaginaire des autres, il en ramène des souvenirs, des histoires, des aventures. Donc en tant qu'explorateur de l'imaginaire, j'adore aller voir effectivement des êtres qui se transforment en animaux, etc. Moi, seulement si j'en ramène une histoire, ce sera une histoire à moi. Mais je ne te piquerai pas ton idée, hein, mais j'irai volontiers visiter ton univers ou celui de madame, et j'en ramènerai à ce moment-là peut-être des idées. Cela dit, je peux aussi inventer complètement des choses différentes.
Et
c'est le plaisir de l'exploration avant tout. Pardon.
Donc en fait, Arthur, si je comprends bien ce que vous venez de dire, vous avez choisi la solution de facilité.
Ouais.
Les mondes de l'imaginaire, comme on est dans cette espèce de multi-univers, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez d'importe quoi.
Mais les autres ont tout inventé déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi j'irais me casser la tête à inventer un truc nouveau? Ce n'est pas la peine. Allons voir. Parce que, par exemple, quand je vous parlais de Dracula, pourquoi aller inventer un autre Dracula? On a le meilleur, on a le must dans le genre. Donc il suffit d'y aller. Juste, il suffisait d'aller à un moment où jamais personne n'est allé voir. C'est comme si j'allais voir, je sais pas, ou alors on peut aller voir, oui, Dracula, maintenant, peut-être, dans sa salle de bain, je sais pas, moi, en train de prendre sa douche, ça serait peut-être original. Nous savons à quoi nous attendre dans le prochain roman d'Arthur Taylor. Vincent Villino.
Ouais, moi, ce qui m'intéressait, en fait, dans cette histoire, c'est d'essayer de faire un récit très contemporain d'un vieux thème qui est rebattu. Voilà. Les métamorphoses animales, on a ça à chaque époque, dans chaque civilisation. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Comment, aujourd'hui, on va pouvoir à la fois le vivre, le comprendre, le subir, l'apprivoiser ? Aux origines du roman, il y a cette découverte. D'une part, qu'on avait brûlé beaucoup de loups-garous à la Renaissance, hein, et d'autre part, qu'aujourd'hui encore, on soigne quelques milliers de personnes chaque année qui ont une maladie, souffrent d'une maladie psychiatrique qu'on appelait la lycanthropie. Bon, c'est un peu connoté, donc maintenant, on va parler plutôt de zoopathie, schizophrénique, etc. Il y a quelques milliers de personnes chaque année qui vivent des blackouts, des absences de quelques heures, ou quelques jours, à l'issue desquels elles sont convaincues d'avoir été des animaux. Voilà, je trouve que l'idée est intéressante, et si c'était vrai. Voilà, c'est tout simplement, si c'était vrai, comment ce serait vivable ? Et c'est cette idée que j'avais envie de creuser.
Mais quand même, là, vous venez de nous donner un début d'explication, mais en même temps, qu'est-ce qui vous a tiré le côté sauvage ? Parce que, par exemple, vous auriez pu prendre les vampires, où là aussi, il y a une maladie qu'on appelle la porphyrie, je crois. Donc, et là aussi, on a des vampires, on en croise un certain nombre, d'ailleurs, même aujourd'hui, encore dans notre monde moderne, y compris des gens qui échangent leur sang, qui se boivent le sang l'un de l'autre, etc. Donc, Pourquoi plutôt les loups-garous que les vampires, par exemple ?
D'abord parce qu'en l'occurrence, un ours-garou ou un homard-garou, je trouvais ça cool. Voilà, il y a. Moi, je voulais faire un roman qui est une sauvagerie un peu native. L'action se passe dans les Alpes où moi je vis. Je voulais quelque chose qui ait une force un peu de sauvagerie naturelle. Globalement, les vampires sont plutôt trop bien éduqués pour mes romans. Et puis aussi, je crois, il y a une dimension dans l'animal qui pouvait être intéressante, en tout cas dans ce roman, à mes yeux, c'est que l'animal ne dit rien de ce que vous êtes. C'est-à-dire que chacun se métamorphose en un animal, un peu par hasard, mais sans lien aucun avec son caractère. Donc il y a des gens qui ont des animaux super, super valorisants, d'autres c'est plus honteux, et il faut faire avec. Et je voulais vraiment d'une histoire où la dimension fantastique, si c'est du fantastique, si ça n'existe pas, la dimension fantastique relève du handicap plus que du don ou du super pouvoir ou de la magie. Voilà, il faut faire avec. Je me transforme chaque fois que je suis en contact avec le sang de quelqu'un, je me transforme en ours. C'est pas facile si je bosse dans un hôpital ou voilà. C'est cette histoire-là.
C'est vrai que être Omar Garou et si on travaille dans une cuisine, c'est pas évident non plus. Quelque part, en même temps, vous reprenez un peu l'idée de l'animal totem que chez les Amérindiens, etc.
Il y a clairement une dimension chamanique. Le héros, tout se passe en Europe, hein, essentiellement en Europe, dans tout l'arc alpin. Mais le héros vient des États-Unis, il s'appelle Black Hills, donc c'est clairement une référence à des univers amérindiens. Il y a tout un épisode avec une tente de sudation aussi, etc. Cet aspect chamanique m'intéressait beaucoup. Et puis j'ai choisi l'ours aussi parce que chez les Indiens, c'est l'ancêtre de l'homme. Et que dans un bouquin qui questionne la part d'humanité en nous quand on est un grizzly ou la part d'instinct en nous quand on est un jeune homme de 17 ans, ça m'intéressait d'avoir cet ancêtre-là. Voilà, il y a beaucoup de croyances. Dans tous les récits mythologiques, à peu près partout, on a des dieux qui se transforment parfois en homme, parfois en animal, parfois dans un duo. Je trouve ça intéressant qu'en définitive, quand l'homme a commencé à se faire des idées des dieux, il les représentait avec des têtes animales et un corps humain ou vice-versa. Ça dit quelque chose de ce qu'est le pouvoir ou l'absolu, et c'est intéressant.
Alors, on a bien compris que chez Vincent Vignino, il aimait bien les garous, quelle que soit leur espèce. Mais du coup, ça m'amène à une autre question. Alors, pour vous quatre qui avez décrit plusieurs sortes de créatures différentes, parmi toutes ces créatures que vous décrivez dans vos mondes, quelle est votre créature favorite?
The favorite, I like Alexia because of her lack of ability, I guess. I like that she has this strange, different, unique thing that she can do. So as my personal invention of a creature, she's my favorite. But my favorite creature to explore is humans. particularly when they are being outrageous. So it is the human side of my supernatural creatures that I like the most, that I find the most interesting. And it is their struggle to stay connected to their mortality that they've lost that I like the most. So it's those moments with Lord Akeldama, for example, who is my most popular vampire. He has moments of feeling. And it's the challenge of exploring the way someone who has lived a very long time accesses their emotions. Because for me, in order to live for a long time, you have to control yourself. You have to not care. Because everybody you love is constantly dying. And so those moments when both the werewolves or the vampires allow themselves to care when they're returning to being mortal, those are my favorite ones. So. And then I love my human characters. So Madame LeFou is a personal favorite of my friend.
Alors personnellement, mon personnage préféré c'est Alexia, principalement parce que justement elle n'a pas de don hormis celui de nier celui des autres, parce qu'elle est étrange et unique, et puis c'est mon invention personnelle, donc vraiment j'apprécie beaucoup Alexia. Après, ce que j'aime explorer, c'est justement l'humanité des personnages, les humains en général, surtout quand ils vont trop loin, et l'humanité de mes créatures en elles-mêmes, la façon dont ils doivent lutter pour retrouver justement un peu de mortalité chez eux. Par exemple, Lord Akeldama, qui est mon vampire le plus apprécié des lecteurs, j'aime beaucoup les passages où on étudie ses émotions, et voir comment, quand on a vécu si longtemps, justement, on peut encore ressentir quelque chose. Parce que pour moi, quand on vit aussi longtemps, quelque part, il faut garder le contrôle et il faut un peu se moquer de tout, parce que tous les gens que vous aimez autour de vous finissent par mourir. Donc ça ne doit pas être évident à supporter. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement quand les loups-garous et les vampires s'intéressent à quelque chose, ont des émotions pour quelque chose, qui les remet en lien avec leur aspect mortel qu'ils ont perdu. C'est vraiment ce que je préfère. Et puis après, j'aime aussi beaucoup mes personnages humains, notamment Madame LeFou qui est française et que j'aime beaucoup.
Mais c'est vrai, j'ajouterai en commentaire que j'aime beaucoup Lord Akeldama, et je crois que dans le premier volume de la série, dans Sans âme, il y a une scène à la fin entre Alexia et Lord Akeldama qui est sans doute l'une des scènes les plus poignantes que j'ai lues en urban fantasy. je ne vous en dis pas plus, mais vraiment, lisez ça à la fin. C'est extraordinaire. Cassandra.
J'avoue que j'ai pas vraiment de préférence. Je trouve que chaque personnage, enfin, chaque créature a des qualités, des défauts. J'ai énormément de mal à éliminer mes personnages, je dois être très claire. Je devais tuer Gordon, le vieux loup-garou au tome 2. Je n'y suis pas parvenue. Donc, je m'attache forcément beaucoup à mes personnages. Certainement, mon personnage, si je devais vraiment choisir, ce serait évidemment Rebecca, qui est une sorcière de guerre, mais pas seulement. Pour toute la mythologie derrière, parce qu'elle n'est pas qu'une sorcière non plus. Je pense que ce serait le clan des sorcières de guerre, les Vicaris, qui est le plus intéressant, et c'est celui qu'on va vraiment réellement découvrir là maintenant. Et pour le coup, mais c'est vrai que c'est très difficile à choisir. J'adore Hector, le majordome vampire, complètement déjanté. C'est très très difficile de choisir. Je me suis attachée beaucoup au personnage. Et il y a le chaman aussi que j'aime beaucoup, le chef du clan chaman, qui est un personnage qu'on va vraiment découvrir là au prochain tome et qui est très très intéressant. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est comme demander à une maman qui en préfère ses enfants. C'est un peu délicat.
Oui, alors moi j'ai une préférence très nette, par contre, pour le coup. C'est vrai qu'on aime tous ses enfants, hein, bon. Même les plus monstrueux. Surtout les plus monstrueux. Moi j'ai une très très nette préférence pour l'elfe. Alors pour une raison précise, l'elfe est pour moi l'image, la représentation de ce que peut être l'être humain dans 3000 ans, quand il aura suffisamment évolué pour être capable. De vivre en harmonie avec son environnement sans le détruire, être capable de vivre en paix avec lui-même. Quand il aura dépassé toute son animalité, il aura quitté cette sauvagerie qui est en lui, qui l'amène à faire des choses absolument monstrueuses, ou à la limite presque, alors ça peut avoir un effet inverse, c'est-à-dire que si l'humain devient elfique, peut-être à ce moment-là ce sera la disparition définitive des loups-garous, de toutes ces créatures. Parce que on n'en aura plus besoin pour nourrir notre imaginaire, on aura toute la vie, la nature autour de nous.
En même temps, chez nous, certains des elfes vivent en quelque sorte en symbiose avec certaines créatures, parce que par exemple, il y en a une qui vit avec son larynx. Quand ils sont liés.
Ce que j'aime bien, c'est je l'ai exploité deux ou trois fois dans mon livre, c'est la notion d'alter ego. Par exemple, un truc qui m'avait beaucoup fasciné, c'était dans la Croisée des mondes de Pullman, le démon, vous savez, cette créature qui est animale et qui est liée à nous. J'ai trouvé ça tellement fascinant, c'est l'idée vraiment que j'aurais aimé inventer. Et j'adore l'idée d'alter ego. Imaginez un petit peu que chacun d'entre nous, on puisse avoir une créature vivante qui soit notre alter ego avec lequel on partage notre esprit. Cet alter ego serait une partie animale de nous, serait l'expression animale de notre personne profonde, et on serait en totale totale symbiose, ce qui fait que même si son alter ego est très très loin, par exemple un aigle, j'ai imaginé des elfes et des aigles, on est en liaison, en liaison, et on peut voir à travers ses yeux. Ah, ça fait fantasme.
Et vous, Jean-Luc Parcastel, lequel de vos enfants est votre favori?
Moi, je suis un peu comme Cassandra, c'est très difficile. C'est quand on me demande lequel de vos livres vous préférez, je dois avouer que je suis un peu incapable de répondre. Bien sûr, j'ai surprendre personne en disant j'aime bien Mégalou, mais j'ai une tendresse, entre guillemets, particulière pour une de mes enfants, qui est la Valkyrie, justement, qui est dans Francia. Cette espèce d'hybride, de croisement entre une femme et une nonne de rasoir et une mante religieuse. C'est une femme qu'on a enfermée dans une espèce d'armure qui est une espèce de vision de fantasme terminal et qui va être un instrument pour tuer les adversaires. Donc elle est enfermée dans cette armure, dans cette espèce de corps qui est pas le sien, quoi. C'est un personnage tragique et terrible à la fois. Donc c'est assez abominable. Donc j'ai une faiblesse particulière pour elle. Et pour les danseurs qu'il y a dans le dernier hiver, ces espèces de créatures qui suivent et qui vivent dans les tempêtes. Des places dans les tempêtes de neige, on dirait des espèces de fantômes, ils sont petits, chétifs, que du nerf et du muscle, une espèce de fourrure grasse et pas de visage. juste deux yeux, une bouche minuscule avec deux dents, ils se nourrissent de tous les êtres, ils vont sauter sur les gens, ils vont danser dans la tempête en suivant le vent, attirer les gens de leur champ quand ils passent autour, et puis les attaquer. Ils sont assez terrifiants. Moi, en tout cas, ils arrivent à me terrifier, donc je suis assez content.
Vas-y, je veux y réagir, là.
Non, je me disais qu'on était des grands malades, globalement. par rapport à toutes les créatures qu'on a évoquées, moi, je trouve qu'il y en a une qui est très intéressante aujourd'hui. Une créature qui vit globalement dans le noir, qui ne se nourrit pas, qui ne dort pas, qui est capable de rentrer dans les pensées des autres, de se nourrir des pensées des autres et éventuellement de les détruire. C'est le pirate informatique. Voilà, moi, c'est vrai aujourd'hui que ce qui m'intéresse dans les mondes imaginaires, c'est qu'on a évoqué des capacités surnaturelles auxquelles on donnait une certaine forme et qu'aujourd'hui il y a une forme de technologie qui les rend possibles. Moi, ça me fascine d'autant plus que quand je dois sortir du simple traitement de texte, c'est une bataille. Donc, voilà. Mais moi, j'ai le sentiment plus ça va, plus il va falloir qu'on raconte des histoires. Il va falloir, nul n'y sera obligé, mais qu'on raconte des histoires qui prennent cette dimension-là en compte. Aujourd'hui, la technologie est parfois plus puissante, elle va incapaciter, elle va rendre incapable un certain nombre de pouvoirs magiques parce qu'elle est plus puissante. Et voilà, ça c'est des histoires qui seront amusantes à raconter aussi. Est-ce qu'une réunion de sorcières peut se passer sur des réseaux sociaux? Est-ce que, en définitive, le don d'ubiquité à la période du virus informatique, c'est pas plus compliqué, etc.
Voilà. Vous avez un commentaire à faire là-dessus, parce que la technologie...
Non, Bruce l'a fait. En fait, dans l'équipe d'Annex, en Global Fantasy, Ilona Bruce a fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des vagues... Enfin, c'est un couple, en fait. Ce sont deux auteurs, un mari et une femme. Et il y a des vagues, ce qu'on appelle la période technologique, où c'est... Voilà, qui anéantit la magie. Et puis, le monde se partage en vagues technologiques ou vagues magiques. Donc, les créatures, certaines créatures ne peuvent pas se... Enfin, on peut les tuer à certains moments, on s'en débarrasser, etc. Donc, le monde se divise en deux choses. Et c'est assez intéressant, le monde qu'elle a créé, parce que justement, c'est à base de ça aussi. C'est-à-dire qu'à la fois la technologie actuelle est mêlée à la magie et l'un prédomine de temps en temps sur l'autre, selon le temps.
Merci. Oui, je posais la question à Gaëlle Carrier. Qu'est-ce qu'elle pense de la technologie? Parce que Alexia Tarabotti, elle utilise une ombrelle de haute technologie.
I like James Bond. So I wanted to give Alexia a Victorian version of a James Bond gadget. And Madame Lafou, her French friend, inventor friend, is her Q, in charge of making gadgets, although perhaps not so friendly. So yes, I was going to say though that some of my best friends are hackers. So.
Alors en fait, j'adore James Bond et du coup, je voulais essayer de donner à Alexia un espèce de gadget de l'époque victorienne. Et Madame Lefou, l'inventrice française, s'occupe de lui créer son ombrelle. Et je voulais juste préciser à Vincent que certains de mes meilleurs amis sont des pirates informatiques.
Écoutez, je vois que l'heure a tourné très vite, il est 5h-5, et comme on m'a déjà fait les gros yeux hier en me disant qu'il fallait respecter les 50 minutes et que nous sommes à 55 minutes... Je suis désolé, mais bon, on était suspendus à tout ce que nous ont raconté nos auteurs ici présents, et je crois qu'il reste qu'à les remercier beaucoup pour leurs livres et pour leurs commentaires cet après-midi.